Allez, on va passer à l'invité du jour, Michel. Comment ça va, Michel Favret?
Ça va. Bonjour,
voilà, depuis Joël. La Dordogne, donc toujours en décembre ici, on a l'impression d'être en été. La Dordogne, c'est pareil.
C'est exactement pareil. Ce matin, il faisait beau. J'ai pu regarder un petit coup le ciel vers 6h30 et voir une petite comète dont on reparlera tout à l'heure.
Bien sûr, on va en parler. Alors, chronique astro numéro 16, mais avant de démarrer cette chronique, rappelez, hein, Constellation et Galaxie.
Oui, donc une petite association par la
une
taille
grande
en Dordogne.
Association. Chaque fois, je vous corrige,
mais
Michel,
grande
attention.
Par l'activité. Puisque la région aquitaine est très très pauvre en planétarium. Hein. D'ailleurs, on milite, nous, pour qu'un vrai planétarium voit le jour un jour à Bordeaux ou dans l'agglomération. Et donc, on est un des rares planétariums de la région, un planétarium itinérant, donc qui se rend dans les écoles. Ça nous arrive aussi d'aller dans des centres de loisirs, des centres de vacances ou d'autres structures qui nous accueillent pour montrer le ciel et expliquer un petit peu le ciel, les constellations, etc. On trouve toutes les infos sur notre site web. www.constellationzgalaxie.org.
Voilà, il faut le rappeler, puis on le redira bien sûr en se quittant, en mettant également quelques infos via le Facebook. Alors, Michel Chronique, numéro 16, vous allez commencer par l'actu, bien sûr, hein, faut être logique.
Voilà, alors au mois de décembre, ce qui m'a un peu marqué, je dirais, c'est l'image d'une fusée qui revient se poser sur Terre. Et je pense que les auditeurs ont pu voir cette vidéo dans les médias, hein, qui est assez étonnante, puisque le premier étage de la fusée Falcon 9 vient se reposer en douceur sur le sol. Et ça m'a rappelé un petit peu les BD de mon enfance, si je peux dire, de ma jeunesse, où on avait, dans les années 60-70, on imaginait des astronautes voyageant de planète en planète et décollant et se posant autant de fois qu'ils le voulaient. Et on a aussi le cas de Tintin sur la Lune, où la fusée vient se reposer. Alors, cet exploit technique illustre un des problèmes de la conquête spatiale depuis ses débuts. Lorsqu'on procède à un lancement, la plus grande partie de l'engin est perdue et retombe sur Terre en brûlant dans l'atmosphère. Si on prend le cas des missions Apollo, qui ont amené des astronautes américains sur la Lune, seule une petite capsule d'à peu près 6 tonnes revenait en douceur avec les astronautes sur, au départ, la fusée Saturn V qui faisait 110 mètres de haut et je crois qu'elle faisait dans les 3000 tonnes. Alors bien sûr, la plus grande partie, c'est du carburant. La NASA voulait résoudre ce problème avec un engin réutilisable et c'est ce qui a donné lieu au projet de la navette spatiale qui devait fortement réduire les coûts des missions spatiales. Mais loin des objectifs optimistes du départ, on pensait pouvoir lancer une navette tous les 15 jours, le système s'est révélé bien plus complexe et coûteux que prévu, et au final il y a eu seulement 135 vols en 30 ans, donc vous voyez à peu près 4 par an, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et surtout il y a eu deux accidents majeurs et mortels avec l'explosion de Challenger au décollage en 1986 et la destruction de Columbia en 2003 pendant son retour dans l'atmosphère. Le test qui a été donc réussi par la société SpaceX illustre aussi une autre évolution de l'aventure spatiale. Du côté américain, on cherche à privatiser cette activité avec une agence spatiale publique, la NASA, qui ne régente plus tout de bout en bout, mais confie la réalisation de certaines missions à des sociétés privées et commerciales comme SpaceX. L'objectif, c'est de réduire les coûts et la réutilisation possible d'une partie du lanceur pourrait être donc très rentable à terme. On parle un petit peu de Mars.
Oui, parce que voilà, c'est vrai que je suivais. voilà. C'est vrai qu'on a fin changé octobre, un petit peu le protocole de la chronique.
Ouais,
allez, sujet, thème Mars.
Voilà, fin octobre, on avait vaguement évoqué le film Seul sur Mars, mais je ne l'avais pas encore vu à l'époque. Maintenant, c'est fait et ça m'a donné l'idée de parler de cette planète, d'autant qu'elle sera d'actualité en 2016, comme on va le voir. Alors, Mars est une planète tellurique, c'est-à-dire rocheuse, hein, comme Mercure, Vénus et la Terre. Elle est nettement plus petite que la Terre, car son diamètre est à peu près deux fois plus petit que celui de la Terre, c'est-à-dire dans les 6800 km contre 12800 pour la Terre. Ce qui veut dire qu'en volume, Mars est presque huit fois plus petite que la Terre. Alors, j'aime bien donner des images, hein, à nos auditeurs, même si on a la radio. Si on représentait la Terre par une orange, Mars, à côté, serait à peu près la taille d'une petite clémentine. Cette petite taille fait que la gravité à la surface est plus faible que sur Terre, à peu près un tiers de la gravité terrestre. Et si on ne le voit pas directement dans le film, cela explique que les astronautes arrivent à se déplacer sans difficulté avec des scaphandres très lourds. Un peu comme ceux qui se sont posés sur la Lune dans les années 70, où la gravité est encore deux fois plus faible que sur Mars. Et on avait sur les vidéos une démarche un petit peu sautillante à cause de cette gravité réduite. Avec cette taille réduite, mais l'absence de toute mer, curieusement, la surface de Mars à explorer est à peu près l'équivalente à la surface de tous les continents terrestres. Donc on peut imaginer un peu le travail que ça représentera quand on voudra l'explorer. Mars orbite autour du Soleil à une fois et demie la distance de la Terre au Soleil, soit à peu près dans les 230 millions de kilomètres, ce qui fait que quand elles sont plus proches, la distance qui sépare les deux planètes se réduit à, si on peut dire, seulement 80 millions de kilomètres. On dit que c'est l'opposition, car le Soleil et Mars sont à l'opposé l'un de l'autre par rapport à la Terre, l'un se couche quand l'autre se lève. Donc du fait de leurs mouvements respectifs, la Terre faisant le tour du Soleil en un an, et Mars à peu près en deux ans, cette situation se reproduit à peu près tous les deux ans. C'était le cas début avril 2014, et cela se reproduira fin mai 2016. C'est pour ça qu'on parlera, je pense, pas mal de Mars en 2016. C'est toujours à l'approche de l'opposition que l'on envoie nos sondes à destination de Mars pour que le trajet soit le plus court possible, ce qui prend quand même dans les six mois avec nos technologies actuelles. Si on se souvient, dans le film, cela se traduit par le fait que le voyage spatial entre les deux planètes ne peut pas être effectué n'importe quand. Dans la réalité, on peut se rappeler que c'est à l'opposition de 2012 qu'on envoyait le plus gros robot encore actif à la surface de Mars, hein, c'est Curiosity, alors qu'en 2014, deux sondes sont parties pour se mettre en orbite autour de la planète rouge afin d'étudier son atmosphère, Maven, une sonde de la NASA, et Meghalayan, une sonde indienne. L'opposition de 2016 devait voir partir deux nouveaux engins vers Mars, la sonde européenne ExoMars, qui servira surtout à tester notre capacité à poser un engin à la surface, ce que les Européens n'ont jamais tenté auparavant. Il faut savoir que près de la moitié des missions martiennes russes et américaines se sont écrasées à l'arrivée. De son côté, la NASA devait envoyer la sonde InSight, destinée à mieux étudier Mars en profondeur, notamment grâce à un sismomètre fourni par les Français. Comme on le fait sur Terre, l'étude de la propagation des ondes dans le sous-sol permet de mieux connaître la structure interne de la planète. Malheureusement, une fuite découverte sur ce sismomètre, hein, très récemment, au mois de décembre, empêche pour le moment le lancement. Et si on ne trouve pas de solution très vite, la mission devrait être reportée à la prochaine opposition, c'est-à-dire en 2018. On va perdre deux ans.
Mais avant ces sondes, on n'a pas observé Mars depuis la Terre ou dans des télescopes,
hein ? Bien sûr. Mars est l'une des cinq planètes visibles à l'œil nu dans le ciel. C'est le cas en ce moment, en fin de nuit, car elle se lève un peu avant 3h du matin en ce moment. À la fin janvier, ce sera vers 2h15. Pour ceux qui connaissent un peu le ciel, elle est située dans la constellation de la Vierge, pas très loin de l'étoile la plus brillante, Spica, hein, l'étoile la plus brillante de la Vierge. Elle est facilement reconnaissable à sa couleur orangée, qui lui a valu son surnom de planète rouge, mais surtout son nom Arès chez les Grecs, qui est devenu Mars chez les Romains, puisqu'on y voyait la couleur du sang, donc un rapport avec le dieu de la guerre. On a continué à étudier Mars visuellement, donc surtout son mouvement dans le ciel, jusqu'au XVIIe siècle. Et c'est au XVIIe siècle qu'on a eu les premières lunettes. Hein, la lunette de Galilée date de 1609. Mais il faut savoir que dans une petite lunette comme celle de Galilée, on ne voit très peu de détails à la surface de Mars, voire aucun. Contrairement à ce qui se passe pour Vénus, qui est plus grosse et plus proche, ou Jupiter, qui est loin, mais très très grand. Donc il a fallu attendre pratiquement le 19e siècle pour qu'on commence vraiment à distinguer des détails dans des lunettes ou des télescopes plus puissants, donc des zones plus claires qui sont des calottes polaires, hein, il y a des calottes glacées sur Mars, et d'autres plus sombres qu'on pouvait prendre pour des mers ou des lacs. Alors lors de l'opposition de 1877, l'astronome italien Giovanni Schiaparelli croit discerner des canaux à la surface de Mars, et dans les années qui suivirent, d'autres astronomes confirmèrent ses observations et les développèrent notamment un Anglais, Percival Lowell. À partir de là, on a commencé à imaginer qu'il existait une civilisation sur la planète qui avait construit ses canaux pour apporter l'eau des pôles vers les régions plus chaudes afin d'alimenter des cultures. Et c'est de là que viennent les fameux martiens, hein, des petits hommes verts ou gris, et notamment avec le roman célèbre « La guerre des mondes » publié par H.G. Wells en 1898. Malheureusement, il ne s'agissait que d'illusions dues à la mauvaise qualité des instruments utilisés, et on sait bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de canaux sur Mars et pas de petits bonshommes non plus. Alors sur Mars, il y a des saisons, car l'axe de la planète est incliné par rapport au Soleil, pratiquement comme la Terre, hein, 25 degrés pour 23,5 degrés pour la Terre. Sauf qu'elle dure deux fois plus longtemps, puisque la révolution autour du Soleil dure deux ans. Par contre, la durée d'une journée est presque identique à la Terre, un peu moins de 25 heures. Comme sur Terre, ces variations saisonnières sont l'occasion de changements que l'on peut voir depuis la Terre, notamment des modifications de couleurs qui sont dues à d'énormes tempêtes de poussière. Mais, et là c'est assez différent de ce qu'on peut voir dans le film Seul sur Mars, ces tempêtes seraient incapables de provoquer les mêmes dégâts qu'une tempête terrestre. En effet, comparé à la Terre, Mars a perdu presque toute son atmosphère, sans doute en raison de sa petite taille. Ce qui fait qu'il s'est refroidi beaucoup plus vite que la Terre, ce qui a bloqué le volcanisme qui alimente en gaz l'atmosphère, et d'un autre côté, sa gravité plus faible a laissé s'échapper l'atmosphère dans l'espace. Donc la pression au sol est très faible, et le même vent, à la même vitesse, exerce une force beaucoup plus faible que sur la Terre. y compris pour des sortes de tornades que l'on voit sur des photos prises par des satellites et qui ne font que soulever un peu de sable et de poussière en nettoyant la surface, et ça laisse apparaître comme des sentiers sombres. D'ailleurs, j'en profite, puisque je suis sur Bordeaux aujourd'hui, pour rappeler que jusqu'à la fin du mois, donc il ne reste plus que quelques jours, à Cap Science, on peut voir une exposition où on parle de Mars, hein, Odyssée, et en particulier une expérience où on peut comparer le souffle d'un vent avec la pression de la Terre et à la même vitesse avec la pression de Mars, et on voit que c'est très différent. Donc cette pression très faible qui oblige à se déplacer soit en scaphandre, soit dans des véhicules pressurisés, comme on le voit dans le film, d'autant plus qu'il n'y a pas non plus d'oxygène pour respirer. Et il fait très froid. Alors c'est trompeur parce que la couleur ocre des paysages évoque un peu pour nous des déserts chauds comme le Sahara. Mais à cause de la distance plus grande de Mars au Soleil et l'atmosphère très pauvre, on a une température très basse au sol. Pour donner une idée, en plein midi, en plein été et près de l'équateur, on pourrait avoir une température à peu près supportable dans les 20-25 degrés par exemple. Mais la nuit suivante, elle va descendre en dessous de moins 50. La température moyenne à toute la surface de Mars est de l'ordre de moins 60 degrés, alors que sur Terre, on estime que c'est à peu près 15 degrés. Dans le film, on le voit, parce que quand elles sont privées de protection, les cultures du héros sont presque instantanément congelées à cause de cette température très basse. La petite taille de la planète et sa faible gravité donnent la possibilité au relief de monter plus haut que sur Terre, comme le mont Olympe, le point culminant de Mars, qui monte à près de 22 km au-dessus de la surface moyenne, soit, si on compare à la Terre, trois fois notre plus haute montagne, le mont Everest. C'est le plus grand volcan de tout le système solaire. Avec sa base de plus de 600 km de diamètre, il couvrirait une grande partie de la France si on le mettait à la place de nos volcans d'Auvergne. En observant la surface de Mars, on distingue d'autres grands volcans, mais aussi des cratères dus à des chutes d'astéroïdes, un peu comme sur la Lune, mais ils sont moins nombreux que sur la Lune. Un autre relief qui frappe quand on voit des images de Mars, c'est Valles Marineris, un grand canyon que l'on survole au début du film d'ailleurs. Et on voit aussi de hautes falaises quand le héros se déplace avec son véhicule. Comme le Grand Canyon américain qui a été creusé par le fleuve Colorado, c'est l'écoulement de l'eau qui a érodé les rochers pour creuser cet immense canyon. Il fait dans les 3700 km de long. C'est-à-dire que si on le plaçait aux États-Unis, il couperait le continent en deux, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Par endroit, il atteint 10 km de profondeur, soit plus que la hauteur du mont Everest.
Et l'eau sur Mars, hein, on en a tellement parlé dans certains médias.
Alors, aujourd'hui, on ne voit plus d'eau à la surface de Mars. Il n'y a pas d'eau visible à la surface de Mars. Mais l'étude des reliefs et des roches, analysées de près par des sondes comme Curiosity, par exemple, démontre qu'il y en a eu dans le passé, avec probablement un océan qui couvrait une bonne partie de l'hémisphère nord de Mars, il y a environ 4 milliards d'années. On pense qu'il y a encore de l'eau dans le sous-sol de Mars, car plusieurs indices semblent révéler sa présence, comme des sortes de coulées qui se produisent le long de pentes abruptes. Elles sont visibles sur une photo, alors qu'elles ne l'étaient pas au précédent passage du satellite. C'est donc qu'elles sont très récentes, elles viennent de se produire. Dans le futur, on projette même l'envoi de sondes qui seraient capables de forer le sol martien pour atteindre ses nappes phréatiques et étudier l'eau, toujours dans l'espoir de trouver de la vie sur Mars. Car si on oubliait depuis longtemps les petits hommes verts, on n'a pas renoncé à chercher des indices de présence ancienne de vie ou même des micro-organismes qui pourraient être encore vivants aujourd'hui. Car le passé géologique de Mars laisse la possibilité d'une période, et comme je disais, il y a à peu près 4 milliards, 3 milliards 8 d'années, où il y avait de l'eau en surface, de l'eau liquide en surface, une atmosphère beaucoup plus dense qu'aujourd'hui et un climat plus tempéré, donc des conditions qui sont assez proches de ce qui règne sur Terre aujourd'hui. Dès les premières sondes martiennes, hein, c'était les Vikings de la NASA dans les années 70, des expériences visaient déjà à détecter une présence biologique dans le sol. À plus court terme, si on regarde les prochaines oppositions, en 2018, une deuxième mission européenne ExoMars visera à rechercher la vie dans le sous-sol avec une foreuse capable d'atteindre la profondeur de 2 mètres. En 2020, il est prévu une sonde commune entre la NASA et l'ESA, l'agence européenne, qui aurait pour objectif de rapporter des échantillons de sol martien sur Terre dans le but de pouvoir les étudier dans nos laboratoires très bien équipés plutôt qu'avec les équipements plus rudimentaires qui peuvent être emportés par les robots à la surface de Mars.
Alors, l'une des questions qu'on se pose tous, Michel, à quand des hommes envoyés sur Mars ?
Alors, personnellement, je ne pense pas avant très très longtemps. On fait souvent le parallèle entre l'envoi des hommes sur Mars et les missions Apollo qui ont amené 12 Américains sur la Lune dans les années 70, mais il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir. La Lune, c'est un saut de puce d'à peine une semaine aller-retour, alors qu'une mission martienne, c'est dans les 2 ans de voyage, d'une opposition à la suivante. On met 6 mois aller, 1 an on reste sur la planète, et 6 mois pour le retour. C'est très dangereux car les astronautes resteraient des mois dans l'espace bombardés par les rayons cosmiques. On en est protégé sur Terre, entre autres par le champ magnétique de la Terre. De plus, il ne faut pas oublier que beaucoup de missions se sont écrasées à l'arrivée, donc c'est assez dangereux aussi de se poser en douceur sur Mars, c'est pas facile. Enfin, c'est très coûteux. Contrairement aux robots, les hommes ont besoin d'oxygène, d'eau, de nourriture pendant tout le voyage, donc un vaisseau très gros est difficile à propulser à grande vitesse. D'ailleurs, comme on le voit dans le film, on pense envoyer séparément les hommes et le matériel pour avoir des engins un peu plus petits. Aujourd'hui, tout ça, c'est hors des budgets consacrés par une nation à la conquête spatiale, et il faudrait imaginer une coopération internationale très large pour financer et réaliser un tel projet. On est très loin du contexte de la guerre froide avec les USA et l'URSS qui avaient engagé la course vers la Lune pour des raisons de prestige. Actuellement, et encore pour de nombreuses années, voire même des décennies, ces budgets sont bien mieux employés dans les satellites ou robots qui réussissent de très belles images et des analyses précises sans avoir besoin d'être nourris ni ramenés sur Terre à la fin de la mission. Donc je pense que les hommes sur Mars n'est pas pour demain, mais plutôt, on va dire, pour après-demain.
Bon, on voulait rêver, mais c'est pas grave. Allez, on continue sur votre chronique, Michel. Alors, le ciel du mois.
Voilà, avec le solstice d'hiver, hein, c'était mardi dernier, le 22 décembre. Nous sommes dans la période de l'année où l'observation du ciel est la plus facile, puisque la nuit arrive de bonne heure, hein, c'est vers 18h30 en ce moment, hein, je parle de la nuit noire, hein, pas du coucher de soleil, et la nuit dure très longtemps. Depuis Noël, c'est le ciel de l'hiver qui monte à l'est en soirée, avec sa constellation vedette, Orion, qui se lève. Mais il faut quand même patienter encore jusqu'à minuit pour le voir au plus haut dans le ciel plein sud. Fin janvier, ce sera vers 22h. Je rappelle aux auditeurs que les étoiles les plus brillantes des constellations entourant Orion forment comme un grand G dans le ciel. Ces constellations principales de l'hiver sont, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le Taureau avec l'étoile Aldébaran, le Cocher avec Capella, les Gémeaux avec Castor et Pollux, le Petit Chien avec Procyon, le Grand Chien avec Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius, et enfin la silhouette humaine d'Orion au centre avec Rigel, qui est son pied, Bellatrix et Bételgeuse, qui sont ses épaules. Et avec toutes ces étoiles, ça forme un grand G dans le ciel. Je ne vais pas insister trop longtemps sur les constellations, je pense que le plus simple c'est quand même de se référer aux cartes, hein, d'expliquer la carte du ciel à la radio c'est pas facile, et donc on peut le retrouver sur notre site web, hein, je rappelle www.constellationsetgalaxies.org. Sur la droite il y a un onglet astronomie dans lequel on a la rubrique le ciel du mois avec les cartes et des explications un petit peu détaillées que ce que je peux faire ici.
Les planètes.
Alors, comme je le répète depuis octobre, hein, c'est en fin de nuit que les planètes sont visibles et font le spectacle avec un bel alignement dans le ciel. Malheureusement, la brillante Vénus est de plus en plus basse et proche du Soleil. Elle ne sera bientôt plus observable. À courant janvier, on n'arrivera plus à l'observer. En ce moment, 2 heures avant le lever du Soleil, donc 6h30, comme ce matin pour moi, on peut encore l'apercevoir vers l'est. Au sud, on a un autre point très brillant, un peu moins. Hein, Vénus est la planète la plus brillante dans le ciel. Donc l'autre point brillant au sud, c'est Jupiter, et à mi-chemin à peu près entre les deux, on a Mars, qui est reconnaissable à sa couleur orangée. Le mois dernier, j'avais signalé la présence d'une petite comète observable aux jumelles, hein, dans une paire de jumelles, ça fait comme une tache floue légèrement verdâtre. Elle se rapproche toujours de nous et devient plus lumineuse au point qu'elle pourrait devenir perceptible à l'œil nu. Alors bien sûr, dans un ciel bien noir, on pense autour du 12 janvier. Pour essayer de l'observer, il faudrait attendre au moins jusqu'au 4 janvier pour que la Lune soit moins gênante. Par exemple, ce matin, il y avait une grosse Lune et le fond de ciel n'était pas bien noir, donc on voit nettement moins la comète dans ces conditions-là. La comète se situe entre Arcturus, en janvier, entre Arcturus, une étoile très brillante qu'on trouve facilement en prolongeant l'arc, de la queue de la Grande Ourse, et Alcaïde, qui est la dernière étoile de cet arc. Donc elle se promène entre Arcturus et la Grande Ourse. Sa position change tous les jours, donc pour la trouver, j'invite les éditeurs à consulter la carte que nous avions mise en ligne sur notre site. La carte actuellement en ligne, c'est celle de décembre, mais bien sûr, dans les jours qui viennent, je mettrai en ligne la carte pour janvier.
Allez, dernière partie de votre chronique, les éphémérides.
Alors, il n'y a pas d'énormes phénomènes astronomiques à signaler. Comme d'habitude, il y a le rapprochement de la Lune avec les planètes, hein, qui peut faire de jolis spectacles et assez facile à photographier en plus. Jeudi, donc demain, le 31 décembre, à partir de minuit, quand elles vont se lever, la grosse Lune sera près de Jupiter. Alors je pense que ça pourrait être l'occasion de prendre un peu l'air pendant la soirée du réveillon, juste après les vœux. Dimanche, le 3 janvier, et lundi 4, un croissant qui sera dimanche au-dessus, puis lundi en dessous de Mars. Le jeudi 7... Jeudi prochain, un fin croissant près de Vénus. Et on aura aussi Saturne un peu plus bas, car elle commence à réapparaître dans le ciel du matin en janvier. Donc ça fera comme un petit triangle avec la Lune, Vénus et Saturne. Et en fin de mois, mercredi 27, de nouveau une grosse lune qui passera près de Jupiter. On a quand même un phénomène assez curieux, avec un rapprochement, on appelle ça une conjonction hein, en astronomie, le matin du samedi 9, une conjonction de Vénus et Saturne tellement proches l'une de l'autre que je pense qu'à l'œil nu, elles pourront paraître confondues. Et avec des jumelles, je pense qu'on les séparera. Si on parle un petit peu d'étoiles filantes, hein, si on a l'occasion de regarder le ciel, on est actuellement dans la période des quadrantides, jusqu'au 12 janvier à peu près, et le maximum est prévu le 4. Alors pour essayer de les voir, le mieux c'est de se tourner plutôt vers le nord et regarder un peu dans la région de l'étoile polaire, et plutôt en deuxième partie de nuit, hein, c'est-à-dire plutôt après minuit, voire 1 ou 2 heures du matin. Voilà, et pour finir, un petit passage par le calendrier, hein. Comme ma prochaine chronique sera normalement le 27 janvier et que ce sera, je trouve, un peu tard pour des vœux, je vais profiter de mon passage aujourd'hui à l'antenne de O2 Radio pour souhaiter avec un peu d'avance à tous nos auditeurs une bonne année 2016 avec une bonne santé, la réussite dans leurs projets et aussi bien sûr un bon ciel.
Et oui Michel, on se retrouve le 27 janvier. Allez, on va rappeler Constellations et Galaxies. Voilà, c'est un site référence hein, de votre association avec plein d'infos, le planétarium, mais pas
voilà,
seulement.
Voilà, pour y a la partie astronomie pour ceux qui s'intéressent au ciel, donc avec le ciel du mois, éventuellement
ça permet d'avoir des liens et des références par
et
rapport
pour,
à ce que
disons,
vous présentez.
Et pour, disons, plutôt notre activité principale, et notamment en Gironde avec le planétarium, il y a une partie planétarium où on va trouver toutes les informations, c'est-à-dire quel espace il faut pour pouvoir l'installer, quel est le contenu des séances, combien on peut accueillir d'élèves à la fois, etc. Puis bien sûr les tarifs, parce que malheureusement tout ça n'est pas complètement gratuit.
Il y a des frais, c'est logique. Tout expliqué. En tout cas Michel, merci, on se voit l'an prochain.
Voilà, l'année prochaine.
27 janvier.
Exactement.
Allez, merci à vous Michel, et on réitérera quelques infos bien sûr via le Facebook de la radio.